Radio Orient, il est tout juste midi. Le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, Pomas sous le choc après une violente tornade dans l'Aude, 39 blessés dont 2 en urgence absolue et 300 habitations touchées. Les secours restent mobilisés dans le village sinistré. Un investissement saoudien XXL près de Paris, 6 milliards d'euros pour créer 3 parcs d'attractions à Cergy-Pontoise. Le projet promet 22 000 emplois directs. Un lourd fardeau levé pour la Syrie après 47 ans. Washington la retire de sa liste des États soutenant le terrorisme. Damas espère désormais relancer investissement et reconstruction. Bonjour. Dans l'Aude, le village de Pomas se réveille profondément meurtri après le passage d'une violente tornade de lundi en fin d'après-midi. Le bilan fait désormais état de 39 blessés, dont 2 en urgence absolue et de 300 habitations touchées dans cette commune d'un millier d'habitants des Corbières. Toitures arrachées, maisons endommagées, rues jonchées de tuiles, de branches et de débris. Les dégâts sont considérables. Quelques 75 sapeurs-pompiers épaulés par des équipes spécialisées ont travaillé toute la nuit et poursuivent les opérations de reconnaissance ainsi que l'évaluation des risques d'effondrement. Les habitants sinistrés ont été accueillis dans la salle polyvalente ou relogés chez des proches et dans les communes voisines. Plusieurs routes restent coupées et 1400 foyers sont toujours privés d'électricité dans l'Aude. La tornade a frappé Pomas lundi vers 17h20, alors que le département était placé en vigilance orange aux orages. Et puis en Corse, un incendie vraisemblablement provoqué par la chute d'une ligne électrique arrachée par des vents violents s'est déclaré dans la nuit près d'Ajaccio, entraînant l'évacuation spontanée de 200 personnes. Aucune habitation n'a été menacée et le feu était quasiment fixé en fin de nuit après le passage de violents orages sur l'île. 6 milliards d'euros pour 3 parcs d'attractions près de Paris, près d'un milliard de contrats dans les transports. La visite de Mohamed Ben Salman à l'Élysée s'est accompagnée d'annonces économiques majeures. Paris et Riyad veulent clairement accélérer leur partenariat tout en affichant leur convergence sur plusieurs dossiers du Moyen-Orient. Écoutez à ce propos l'analyse de Hasna Abidi, spécialiste du monde arabe et directeur du CERMAM à Genève.
Le projet de la construction de 3 parcs d'attractions par la France, financé par l'Arabie Saoudite, est un indicateur objectif et tangible de la volonté saoudienne de diversifier ses investissements en France et dans le monde, mais aussi sa volonté de construire une proximité avec la nature des projets économiques consentis et évidemment avec la France. Il ne s'agit pas seulement de parcs d'attractions, mais de plus de 21 accords sur plusieurs éléments, plusieurs secteurs, l'énergie, la culture, le sport, l'économie. La France a déjà opté pour l'Arabie Saoudite comme un partenaire de choix dans la région. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est devenue un acteur incontournable, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. L'Arabie Saoudite qui a rejoint cette nouvelle initiative, cette axe avec le Pakistan et la Turquie, renforce sa position sur le plan géostratégique. C'est pourquoi la coopération entre Riyad et Paris a pris une nouvelle dimension depuis la visite de Prince héritier à Paris.
Hasna Abidi, spécialiste du monde arabe et directeur du CERMAM à Genève, joint par Inès Gilles. Une décision majeure pour la Syrie qui espère désormais accélérer sa reconstruction et son retour dans l'économie mondiale. Après 47 ans, Washington a retiré le pays de sa liste des États soutenant le terrorisme. Le président syrien Ahmad al-Sharas salue la fin d'un lourd fardeau et une nouvelle étape dans le rapprochement avec les États-Unis. Les précisions avec vous, Inès Gilles.
Et oui, Nadia, pour Ahmad Achara, la Syrie tourne la page douloureuse de son passé. Je cite, le président syrien a salué la décision américaine de retirer son pays de la liste des États soutenant le terrorisme sur laquelle il figurait depuis 47 ans. Une mesure particulièrement importante pour Damas, car cette inscription constituait un frein aux investissements étrangers. Les nouvelles autorités syriennes cherchent aujourd'hui à attirer des capitaux pour reconstruire les infrastructures dévastées par plus de 10 années de guerre civile. Washington estime que cette décision permet de lever les derniers obstacles majeurs à l'investissement privé en Syrie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio évoque une voie vers la prospérité, je cite, et souhaite favoriser la réintégration du pays dans l'économie mondiale. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis ont fait un autre geste en faveur des nouvelles autorités syriennes. Hayat Tahrir al-Sham, le groupe islamiste dirigé par Ahmad al-Shara, a lui aussi été retiré de la liste américaine des principaux groupes et individus terroristes. Anciennement appelé Front al-Nosra, il avait été un temps la branche syrienne d'Al-Qaïda avant de rompre avec l'organisation en 2016. Pour le gouvernement syrien, cette décision marque donc une étape décisive. Le ministre des Affaires étrangères parle d'un moment historique, tandis que le ministre des Finances y voit une nouvelle possibilité d'attirer investissements et technologies pour soutenir la reconstruction du pays. Une reconstruction tant souhaitée par la population syrienne meurtrie.
Merci Inès pour ces précisions. On reste dans la région à Gaza. Au moins 5 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été tués hier dans plusieurs attaques israéliennes selon les autorités et les secours du territoire. À Gazaville, une usine de dessalement a également été endommagée. Le Hamas accuse Israël de l'avoir visé, tandis que l'armée israélienne affirme avoir frappé un dépôt d'armes situé à proximité. Et puis, en Cisjordanie occupée, un député israélien d'extrême droite a tenté de détruire au marteau un mémorial palestinien, affirmant qu'il rendait hommage à des terroristes, selon ses propos. Un geste condamné jusque dans les rangs israéliens, notamment par l'armée qui dénonce l'utilisation de ses soldats pour cette opération. Washington durcit encore son offensive économique contre l'Iran. Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions visant cette fois les partenaires commerciaux de Téhéran, avec l'objectif affiché de provoquer l'asphyxie économique du régime. Les pays qui refuseraient de s'y associer sont également menacés de sanctions, notamment d'une exclusion du système dollar. Téhéran promet de résister et prédit une nouvelle défaite américaine. Et puis la Chine a aussitôt réagi et hausse le ton face aux nouvelles menaces américaines contre les partenaires économiques de l'Iran. Justement, Pékin promet de défendre fermement ses intérêts et dénonce la stratégie de pression maximale de Washington. La diplomatie chinoise estime que cette guerre économique risque au contraire d'attiser les tensions et de déstabiliser l'économie mondiale. Les États-Unis veulent étendre à l'ensemble du Soudan l'embargo de l'ONU sur les armes, jusqu'ici limité au Darfour, pour tenter d'enrayer la régionalisation du conflit. Washington dit s'inquiéter notamment du soutien extérieur apporté aux belligérants dans une guerre qui a fait plus de 200 000 morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. Réconciliation entre Alger et Bamako. Après 15 mois de brouille diplomatique, Abdelmajid Tebboune a invité le dirigeant malien Assimi Goïta à effectuer une visite officielle en Algérie, invitation acceptée par ce dernier. Ce rapprochement intervient après le retour des ambassadeurs en juillet et tourne la page d'une grave crise déclenchée notamment par la destruction d'un drone malien près de leurs frontières. Les Européens resserrent les rangs autour de l'Ukraine malgré les menaces de Moscou. Réunis à Kiev hier, ses principaux alliés promettent de renforcer leur soutien militaire. L'Union européenne débloque 6,1 milliards d'euros supplémentaires, tandis que Londres ouvre la voie à une production franco-ukrainienne de missiles longue portée Scalp. Sur le terrain, l'escalade se poursuit de part et d'autre. Une attaque de drones ukrainiens a fait 2 morts et incendié une raffinerie dans la région russe de Krasnodar. En Ukraine, 2 personnes ont également été tuées par une bombe guidée à Zaporijjia. Le parti en France, retour en France, le parti socialiste et Place Publique doivent valider ce mardi soir les règles de leur primaire pour la présidentielle de 2027, organisée en deux tours les 9 et 10 et 16 et 17 octobre. Quatre candidats sont déjà sur les rangs, dont Raphaël Glucksmann, donné favori, tandis que le patron du PS, Olivier Faure, n'a pas encore annoncé ses intentions. La CFDT veut taxer les héritages dès le premier euro. Sa secrétaire générale Marie-Lise Léon défend une mesure de justice sociale et souhaite la mettre en débat avec les candidats à la présidentielle. Le syndicat exclut toutefois toute discussion avec Marine Le Pen, affirmant qu'il ne parle pas aux candidats de l'extrême droite. Cet été, la France a été touchée par plusieurs incendies majeurs face à des feux parfois rapides et difficiles à maîtriser. Les sapeurs-pompiers ont dû faire face à une forte pression sur le terrain. Cette situation relance les tensions entre le gouvernement et les syndicats représentatifs des pompiers qui appellent à une mobilisation à la rentrée. Manque d'effectifs, moyens matériels, conditions de travail. Romain Pudal, sociologue, directeur de recherche au CNRS et ancien sapeur-pompier, pompiers volontaires évoquent pour nous le manque de moyens dans la profession.
Ça fait largement plus de 20 ans qu'ils disent et répètent qu'il leur faut plus de moyens aériens, qu'il leur faut plus de CCF, et des CCF de meilleure qualité et pas les vieux. Des fois, c'est vraiment des vieux machins. À chaque fois que c'est la situation de crise, on leur dit que ce sont des héros, que c'est magnifique, qu'ils sont extraordinaires. Et puis, vous avez peut-être vu, ils ont fait un tract disant, voilà, nous on veut pas être des héros, on faut arrêter avec cette terminologie. Ce qu'on veut, c'est juste les moyens de faire correctement notre travail.
Vous en parliez de cette situation très particulière en France, du recours à des sapeurs-pompiers volontaires de manière massive. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi qu'est-ce que ça pose comme problème ?
Oui, on a un système qui n'est pas forcément très, très connu. Le système français repose en gros sur trois catégories de pompiers. Alors, de manière un peu marginale, des pompiers militaires qu'on trouve à Paris et à Marseille, et des pompiers professionnels qui sont des fonctionnaires de la fonction publique, quoi, territoriale. Et puis, l'armée de pompiers volontaires, donc qui représente quand même sur les 250 000 pompiers à peu près en France, qui représente 200 000 pompiers. Donc c'est 80% des effectifs. On estime que c'est entre 60 et 70% des interventions qu'ils assurent. Dans la réalité, ce sont des gens qui sont artisans, auto-entrepreneurs, et bref, qui ont une vie ou qui sont étudiants et qui s'engagent comme pompiers volontaires. Et une des difficultés que pratiquement tous les départements de France connaissent, c'est que beaucoup s'engagent avec enthousiasme, avec envie de faire le métier le mieux possible, etc. Et puis se rendent compte au fil des années que on les exploite, quoi. Voilà. C'est une espèce de turnover qui pose beaucoup de problèmes parce que on les forme, ils acquièrent de l'expérience. Ils s'épuisent très vite et ils disparaissent de la circulation et on recommence avec des nouveaux, etc., etc. J'espère qu'on ne va pas attendre une nouvelle crise pour redécouvrir encore le problème l'année prochaine.
Romain Pudal, sociologue directeur de recherche au CNRS, invité d'Inès Gilles dans Grand Angle, c'est ce soir après le flash de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci à Raymond Jouan pour la mise en onde. Prochaine édition en langue arabe à 12h30. Excellente écoute sur Radio Orient.